Je m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas, difficiles, sur ce nouveau chemin que vous comme moi, vous n'avez pas choisi. Mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Alors bonjour à tous et merci d'écouter ce sixième épisode de notre podcast. Donc toujours en compagnie de Charlotte. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Oui, on a l'humeur un peu légère aujourd'hui, mais on va quand même replonger dans ce sujet. Dans cet épisode numéro 6... que j'ai intitulé « Tout change et rien ne change », pour signifier qu'effectivement, ce deuil marque de façon particulière notre vie. Ce qui était avant ne sera plus jamais. Donc effectivement, tout change et on va voir ces changements un peu dans le détail. En tout cas, toujours en s'appuyant sur mon expérience, on va dérouler plusieurs aspects de ce changement. Et à la fois, rien ne change parce que, tout simplement pour signifier que le quotidien reste le quotidien, acheter une baguette de pain, aller au travail. Voilà, il y a beaucoup de choses qui restent là, immuables, et qui vont rester là d'ailleurs très longtemps et même après nous. Bref, donc on est dans un virage que notre vie prend et que nous prenons. Dans tous les changements effectivement qui ont lieu, le premier en ce qui me concerne, c'est le rapport à la mort, puisque mon épouse étant décédée de maladie, il se trouve que j'étais physiquement présent lorsque ça s'est produit et qu'elle a arrêté de respirer. Et deuxième rapport à la mort qui change, parce qu'effectivement, sur les premiers temps, avec le manque et avec l'amour en tout cas énorme qui était là, je me suis dit tout simplement, j'ai pas peur de mourir parce que je vais la rejoindre, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et dans les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines, avec ce qu'on a déjà détaillé dans les épisodes précédents, mais effectivement l'idée de voir, de l'imaginer ailleurs, mais autour de moi, et d'imaginer, d'avoir l'idée de sa proximité, le rapport à la mort a changé parce qu'effectivement je me suis dit mais bon, c'est pas grave finalement si je meurs parce que je vais la retrouver, d'autant plus que on avait aussi un peu ces questions spirituelles, le fait que la mort n'est qu'un passage, etc. On les avait discuté ensemble et c'était assez naturel que quelque part ce passage nous amenait à ce que peut-être les âmes se retrouvent, etc. On en parlera peut-être avec un invité ultérieurement. Mais en tout cas, voilà, premier changement, c'est que moi, je n'ai plus peur. Ça ne me fait pas peur parce que j'ai vu le phénomène se produire. Qui est quelque chose d'assez énorme. Moi, j'ai du mal à définir un adjectif pour qualifier cet événement-là. Et à la fois parce qu'il y a cet amour et donc voilà qui transcende un petit peu. J'ai plus peur. J'ai peut-être peur des circonstances et encore. Je suis assez encore imperméable à cette idée-là ne me fait pas peur en tout cas.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est très rare de voir, en tout cas dans nos vies, quelqu'un qui meurt, en tout cas le dernier souffle, vraiment ouais. Le passage de là tu es vivant et là tu es mort.
Ouais, ouais.
Et oui, en fait, la mort nous est invisible. Et donc,
Oui.
on se crée une représentation de ce que peut être la mort. Et c'est vrai que quand on assiste à la mort, alors tout dépend aussi des conditions,
Ouais,
bien sûr,
évidemment.
évidemment.
Dans ces
Effectivement, que
circonstances-là, ça peut.
ça
Ouais.
va induire la façon dont on est en rapport avec la mort après. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un mourir, aussi au fond de nous, vous savez, il y a comme une identification, c'est-à-dire, bah, je ne savais pas ce qu'était la mort, et puis moi, si un jour je meurs, je vais mourir de telle façon. Vous savez, des fois, quand on. Je ne sais pas, les gens, par exemple, en pensant à leur mort, ont peur de mourir de telle façon ou de telle façon. Et souvent, on voit, quand on interroge l'histoire familiale, que la façon dont ils auraient peur de mourir, c'est une mort qui a été dans la famille. Vous voyez, on a une représentation de la mort en fonction de comment les gens sont morts aussi autour de nous, ou de ce qu'on a entendu, ou de. Voilà. Donc effectivement que le fait d'assister donne une représentation et on peut
Alors,
peut-être mieux appréhender les choses quand on voit que la personne est accompagnée, et effectivement vous aviez une discussion avant, donc il y a eu tout un
ouais.
cheminement ensemble.
Et puis aussi, c'est la fin d'une souffrance, puisqu'elle était
Exactement.
vraiment très malade. Et
Ouais.
c'était une délivrance aussi de ce côté-là.
Les gens
Donc.
éprouvent souvent un soulagement qui vient tout de suite d'ailleurs être culpabilisant, c'est-à-dire comment je peux être soulagée que l'autre soit mort, et en fait je ne suis pas soulagée qu'elle soit morte, mais je suis soulagée que les souffrances cessent,
Oui,
et
et ouais, tout
voilà.
à fait. Donc, finalement, cet événement-là, en ce qui me concerne à moi, était finalement assez. Il était très puissant dans son impact, mais il
Parfois,
était
les
assez
gens
doux,
peuvent
quoi,
être
finalement.
marqués par les images. Donc, effectivement, quelqu'un qui n'est pas préparé, une personne qui vient de mourir, qui n'est pas suffisamment peut-être bien préparée, la vision de cette personne récemment décédée peut heurter, effectivement. Et les gens peuvent garder des images qui sont traumatiques, hein, parce que, en fait, par nature, nous, la mort, ça n'existe pas, ça existe qu'au loin pour les autres. Donc, quand on la voit vraiment pour de vrai et de près, ça peut être effectivement choquant, ça peut être un traumatisme, hein, ça peut effracter vraiment, voilà, notre psychisme. Donc il y a des images qui peuvent rester très marquantes, et ça, des personnes le racontent voilà, en consultation. Oui. Et parfois aussi, quand on n'a pas vu la personne et qu'on imagine les conditions et que personne nous explique peut-être comment ça s'est passé, effectivement, on peut nourrir des représentations qui sont. Voilà, qui sont effroyables. Bon, donc ça, c'est des moments de toute
Ou
façon.
inversement, on a l'exemple de personnes âgées qui meurent ensemble dans leur lit. Enfin,
Ouais,
ça,
tout à fait.
il y a aussi des choses,
Bien
voilà. Et
sûr.
alors effectivement, moi, mon rapport est plus apaisé avec la mort entre guillemets, sûrement dû à ces circonstances-là qui sont un ensemble de choses à la fois préparées et à la fois une délivrance par rapport à une souffrance qui était plus supportable, quoi. Bon. Alors, deuxième chose, c'est
Et puis,
qu'effectivement,
je crois aussi qu'il y a vraiment l'accompagnement du dernier au revoir. C'est-à-dire, moi, je revois beaucoup de personnes me dire, mais je n'étais pas là lors du dernier souffle. Et ça reste pour eux une souffrance, une culpabilité. Est-ce qu'elle s'est sentie seule? Est-ce que j'aurais dû être là? Je n'ai pas été suffisamment. Il y a beaucoup de culpabilité qui naissent de ce moment-là. Et en même temps, j'ai envie de dire, on ne peut pas tout maîtriser en fait dans l'arrivée de la mort. Parfois aussi, moi, j'ai pu voir des familles extrêmement présentes toute la journée, vraiment au chevet de leurs proches, et elles s'autorisent 1 minute un café à l'extérieur, et c'est à ce moment-là aussi que la
Oui,
personne décède.
ouais.
En fait, la personne qui décède n'est pas forcément en demande que les proches soient tout le temps là. Elle est déjà dans un travail. hein, à part peut-être pour des personnes extrêmement angoissées ou abandonniques. Mais généralement, effectivement, des fois, on peut estimer, on peut faire confiance aussi à la personne qui meurt. Ça
Ouais,
paraît
qui
bizarre de
lâche.
dire
Ouais,
ça,
si,
mais
si.
peut-être qu'elle décide aussi de lâcher à ce
Ouais, j'y
moment-là.
crois complètement, ouais.
Peut-être pour à la fois épargner certains, ou parce que là, c'est le bon moment et ce n'est jamais contre, voilà, contre quelqu'un. Et je pense que la personne qui meurt aussi a. Comment dire, elle-même quelque part veut jouer un rôle dans
Oui,
dans le moment ou dans
elle
la
lâche,
façon dont
oui, je
elle
pense, ouais.
meurt, et peut-être qu'elle peut par moment avoir une petite prise là-dessus. Ça, c'est plutôt dans les parcours de la maladie, hein,
Oui.
quand il s'agit de gens très malades. Là, on ne parle pas des morts brutales, voilà, c'est différent, hein, mais.
Oui, mais
Donc,
j'y
il y
crois
a
tout à
ça
fait, oui.
aussi. Effectivement, ça, c'est important de le parler avec les gens pour pouvoir avancer aussi. Le moment, le dernier moment, ce moment de séparation ultime ne reflète pas tout ce que j'ai vécu avec cette personne. Et cette personne le sait bien.
Oui,
Hein.
bien sûr.
Et elle a le droit de nous protéger, peut-être. Peut-être qu'elle ne souhaite pas qu'on voit tout
Oui,
ça. Voilà.
tout à fait. D'ailleurs, les spécialistes, en tout cas les médecins, vous disent très bien que parfois, c'est quand la personne, le visiteur sort, que la personne décide, entre guillemets, ou lâche et décède, ou parfois elle attend que quelqu'un
Que
vienne,
quelqu'un
quelqu'un de
vienne.
précis qu'elle attendait
Tout à fait.
pour décéder. Donc il y a ces
Oui.
cas-là. Donc il y a bien une prise en main ultime
Quelque part,
même
ouais.
quelqu'un qui serait dans le coma ou serait pas conscient, à mon avis, c'est la même chose. Alors donc, autre chose qui change par rapport à cet événement, c'est qu'effectivement, ben moi, le lendemain, les priorités sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que j'ai des tas de petits sujets ou de gros sujets qui deviennent insignifiants parce qu'on se rend compte de la finitude de la vie, on se rend compte de notre propre existence début et fin. Et y a des tas de choses qui nous impactent plus, quoi. Enfin, moi, clairement, aussi bien sur le plan du travail que sur le plan des problèmes, j'ai évacué tout ça et je me foutais de beaucoup de sujets qui jusqu'alors étaient importants. Donc, relativise forcément les événements du quotidien. Je pense que c'est plutôt positif de toute façon de prendre de la distance parce que souvent on est vraiment embarqué comme un hamster dans notre quotidien et on prend plus de recul. Là, l'événement nous a propulsés de toute façon à distance de tout. Et donc, bah oui, il y a des problèmes qui n'en sont plus, en tout cas qu'on prend avec plus de légèreté. Et moi, j'ai constaté que c'est beaucoup plus facile à résoudre quand c'est léger. Finalement, paradoxalement, quand on prend les choses moins à cœur, c'est peut-être plus facile de les régler. Donc le rapport aux priorités, je trouve qu'il change aussi
Ouais.
au problème, il change.
Oui, tu l'as éprouvé. C'est vrai que beaucoup de personnes le témoignent. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Il y a vraiment une transformation profonde. Les gens évoquent vraiment ça, le changement dans le rapport aux autres et à la vie. Mais il y a deux chemins parfois qui sont possibles. Donc effectivement, il y a le chemin que tu décris où finalement on prend conscience aussi de la richesse de la vie, de la richesse d'avoir partagé quelque chose à quelqu'un, de la préciosité, je sais pas comment on dit, de la vie. Et du coup, on va effectivement ne plus décider de s'embarrasser avec des petits détails ou
Ouais.
des choses conflictuelles. Mais aussi, on peut être dans le chemin opposé, c'est-à-dire que on n'arrive pas à voir justement cette vie précieuse et du coup de pouvoir en l'accueillir, en profiter différemment. On peut être aussi effracté par l'idée que la vie est précaire, c'est-à-dire qu'on peut mourir du jour au lendemain. Alors pour certains, voilà, ça va donner un sens précieux aux choses et on va pas s'embarrasser. Et pour d'autres, ça va créer une anxiété.
D'accord, je
C'est-à-dire,
comprends.
finalement, ça peut se rompre du jour au lendemain, ça fait effraction, ça veut dire que moi, en fait, je suis mortelle. Et donc, ça veut dire que. Et en fait, ça peut réveiller comme ça des angoisses qui, certainement, peut-être, étaient là de façon préexistante à cette histoire avec le mort. Mais en tout cas, ça peut venir réveiller quand même une anxiété assez forte pour certains. Et donc voilà, il y a ces deux chemins possibles qui sont pas du tout, comment dire, on peut passer bien évidemment d'une vision d'une vie précaire, anxieuse, à quelque chose de mieux, hein. Mais voilà.
Oui, tout à fait. Je pense que, encore une fois, mon cas est pas. On se sert de mon cas pour parler du sujet, mais
Oui,
y a bien de. Y a bien des cas différents, et je comprends qu'on peut se retrouver. Parce que, de toute façon, on l'a dit, hein, on est aussi perdu, on est fragilisé, on est triste, et donc y a des choses qui viennent nous chercher. Hein, ça, c'est sûr. Le rapport, effectivement, au problème a changé, mais le rapport aussi à la vie, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai pris conscience davantage que, effectivement, se réveiller tous les matins, pouvoir vivre une vie sur cette terre avec ce qu'elle comporte d'expérience, que c'était une chance aussi de voir ce soleil se lever, ces oiseaux qui chantent. Bon, c'est peut-être un peu idéaliste, hein, ce que je raconte, mais moi j'ai pris conscience en même temps, j'ai pu l'apprécier, quoi, cette vie. Et aujourd'hui, je l'apprécie. C'est un cadeau, je veux dire, le vent, les amitiés. Le soleil, enfin tout cet environnement, c'est un cadeau qu'on a. Alors certes, on l'a pour une durée limitée. Et je trouve que moi, je l'apprécie. Je suis plus en gratitude avec ce qui m'entoure. Et je me souviens aussi de sa fille qui, lors des obsèques, avait dit, mais on doit vivre pour tous ceux qui sont partis. Donc, pour dire qu'effectivement, nous on est là, eux sont partis, et donc on doit honorer finalement ce départ en profitant de cette vie, quoi, qui nous est offerte d'être prolongée. Et donc moi aujourd'hui, effectivement, j'ai changé radicalement, et chaque jour je le vois comme une renaissance. C'est des effets positifs, quoi, évidemment. Je dirais, évidemment, chacun peut apprécier ou pas ces thématiques au fur et à mesure de son expérience et des rapports qu'il avait, et de son environnement, etc. Mais il y a une façon, voilà. En tout cas, moi, c'est la façon que j'ai aujourd'hui, que j'ai eue de réagir à cette. Enfin, pas de réagir, c'est pas volontaire, c'est vraiment.
Oui, et puis
Ouais.
comme si, je ne sais pas comment le dire, oui, comme si finalement l'amour, voilà, la nature des liens avec cette personne était sereine. Quand il y a un amour, voilà, serein, peut-être c'est une façon aussi de, sans interpréter, pas du tout, mais comme si on s'éveillait, quoi, sensoriellement. C'est une façon aussi de continuer un amour grand qui peut plus être. Comment dire, destiné ou projeté sur la personne physiquement, quoi. Et du coup, voilà, on est amour aussi, on est solide de ce qu'on a vécu avec l'autre, même s'il n'est plus là physiquement. Et tout à l'heure, on disait, voilà, l'amour comme un ange gardien, hein. J'ai quand même reçu quelque chose d'extrêmement fort de cette personne, et ayant passé tous ces caps de manque, aujourd'hui, je sens qu'en fait, ça ne partira pas, quoi. C'est-à-dire que la personne est morte, elle n'est plus là physiquement, mais tout ce que j'ai vécu, en fait, avec elle, c'est à l'intérieur de moi, et ça, personne ne peut me l'enlever. Ça me constitue aussi, ça fait comme une base sur laquelle je peux appuyer mon pied pour un peu rebondir ou m'envoler ou sourire, tout simplement avoir de l'élan dans la vie. Et donc je pense aussi, voilà, il y a la continuation comme ça de cet amour. Là, tu décris un éveil un peu sensoriel, émotionnel aux choses, voilà,
Oui,
qui est très
oui,
touchant,
Non, mais
qu'on
on en
sent
a.
fort, quoi, hein, qui est
Ouais,
fort.
on l'a évoqué.
Oui.
On l'a évoqué juste avant de commencer cet épisode, mais je me suis rendu compte que c'est l'amour, en fait. D'une part, que l'amour, c'est vraiment la seule chose qui reste quand. Je dirais, quand la lumière s'éteint avec la personne que vous aimez, que vous êtes là, c'est vraiment le sentiment qui perdure. Tous les autres, ou les problèmes, ou les questions matérielles, etc., tout ça disparaît. Il n'y a vraiment que ce lien qui est fort. Du coup, Moi, j'ai plus une relation vraiment de cœur à cœur avec les gens et je suis beaucoup plus ouvert sur le monde et sur les gens. Ça, c'est vrai. Même si c'est pas toujours facile parce que nos amis et concitoyens sont parfois vraiment insupportable, donc il y a des cas très pratiques que je ne citerai pas, où il est difficile d'aimer son prochain, comme dirait voilà, qui vous savez, mais donc il y a quand même une relation de cœur qui se développe, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis effectivement, l'autre aspect qui a changé, c'est dans ce quotidien et dans les choses que moi j'ai appris à ses côtés. Ou que j'ai appris ou que l'on a développé ensemble, en fait, parce que quand on est un couple, on est deux personnalités, et puis ensuite, on fait des choses en commun, et puis ces choses en commun deviennent notre quotidien, et puis deviennent notre personnalité. Et aujourd'hui, les choses qu'elle faisait, que je faisais avec elle, maintenant qu'elle est partie, sont devenues les miennes, en fait, hein, et je me suis complètement approprié bah, des petites habitudes. Et quand aujourd'hui je fais certaines petites tâches du quotidien qu'elle faisait et que j'ai intégrées, bah, je pense à elle naturellement. Quand dans certaines situations, je me souviens, elle blaguait, elle faisait des traits d'humour particuliers. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais bah, aujourd'hui, je refais la même chose, moi, dans les mêmes situations. C'est comme si j'étais elle et je fais les mêmes blagues. Voilà, alors que c'était pas mes blagues à moi, en fait, c'était les siennes, mais moi,
Oui,
aujourd'hui, je
c'était
l'ai
sa
fait.
patte à elle.
Voilà, je l'ai fait avec son. Avec sa façon de le faire. Donc, j'ai complètement intégré pas mal de choses d'elle en moi aujourd'hui de façon naturelle. Donc, je suis aussi plus riche de cette expérience et de ces petites choses quoi, du quotidien qui sont devenues les miennes maintenant.
Oui, et là, tu parles d'un processus qui était très naturel. Tu dis, mais naturellement, je me revois reprendre voilà, ces blagues ou la façon dont elle avait de réagir comme si c'était maintenant en moi, un peu à moi, etc. Oui, il y a quelque chose qui se continue de l'autre. Et que parfois, on peut avoir un même plaisir. Là, tu parles de naturellement, ça vient comme ça. Mais on peut avoir plaisir aussi comme une volonté de faire continuer quelque chose qui a été un peu l'œuvre d'eux
Oui,
ou la
ah oui.
particularité de cette personne, continuer à le faire exister. Et je pense que pour avoir parlé avec pas mal de personnes qui allait mourir, pour elle, c'était important aussi que quelque chose leur survive, perdure d'elle, en fait.
Ouais,
Il
bien
peut y
sûr,
avoir
oui.
une angoisse comme ça quand voilà, au moment du passage, ou quand on se sait à un moment donné, quand on se sait mortel, on peut se dire, mais c'est un peu l'heure du bilan, quoi. Qu'est-ce que je vais laisser, en fait, moi, Et il apparaît important qu'on ait l'impression que je laisse quelque chose. Je ne sais pas, une transmission. Voilà. Et donc, je pense que ça doit leur faire très plaisir. Je ne sais pas s'ils nous voient ou quoi. Bon, bref. Mais oui, ça doit leur faire plaisir. Pour avoir parlé aussi avec certaines personnes, là, récemment, une artiste qui racontait que, voilà, au travers de ses œuvres, elle était... Pour elle, elle avait à cœur aussi de... Comment dire, de transmettre et de faire perdurer un peu des phrases provocantes de son grand-père, voilà. Et elle aimait cet humour, elle aimait cette
Ouais.
provocation, et elle essaye dans ses œuvres de la faire perdurer avec sa patte à elle, hein, voilà.
Oui. Donc, ouais, c'est des changements qui nous ont influencés, en fait, et qu'on a intégrés maintenant. Et effectivement.
C'est rassurant aussi pour nous qui allons mourir de
Oui,
ce...
peut-être, oui. Alors, je ne sais pas si ce que je vais laisser moi derrière,
On le
mais.
fait pas, on fait pas ça pour ça, mais je veux dire, c'est
On a une
rassurant aussi
influence de toute
de
façon.
voir que voilà, on existe, on compte, voilà.
Ouais, y a plein de changements, effectivement. C'est difficile, puisque tout change, hein, c'est le titre de cet épisode, mais y a des changements dans la famille aussi, parce que la place que la personne prenait qui n'est plus là. On voit qu'il y a des recompositions, en tout cas des attitudes qui peuvent changer. Ça, je l'ai constaté. C'est peut-être voilà, à la marge, mais c'est des changements qu'on peut percevoir. Ensuite, bah, effectivement.
Ben oui, c'est-à-dire parfois la famille reste la même, bien évidemment, mais les relations se changent parce que peut-être que la personne qui est morte tenait un certain rôle et elle n'est plus là, donc les relations changent.
C'est ça, c'est ça. Et donc les énergies, les forces entre les uns et les autres se recomposent.
Tout à fait.
Donc ça, c'est un changement important. Le changement, les autres changements, il y a un changement pour moi évident, c'est la question du sens de la vie et de la spiritualité, entre guillemets, parce que c'est un mot qui est pas toujours bien compris, mais en tout cas, moi, j'ai un rapport à la vie, à la mort, au sens de la vie, et qui est évidemment très différent de ce qu'il était. Avant cet événement et avant la maladie en général, hein. Donc ça, c'est un changement. Et ensuite, peut-être, souvent, il y a cette question de l'abandon. Et tout le monde aujourd'hui dit, mais moi, j'ai été abandonné par ma mère, moi, j'étais abandonné petit. On est tous abandonnés, j'ai l'impression, à un moment, à un autre, on est abandonné. Et finalement, dans ce qui change pas, bon, est-ce que finalement, c'est pas un nouvel abandon que l'on vit là? On peut pas, est-ce que, bon, on le revit quelque part comme un abandon, en tout cas, il y a une émotion qui est un peu, qui est liée à ça, nous aussi.
En fait, dans les tout premiers moments, oui, on a un sentiment. Ça fait partie d'une spirale comme ça, d'émotions, de plein d'émotions. Et effectivement, il peut y avoir ça, ce sentiment d'être abandonné. Voilà, je suis abandonnée. Et d'ailleurs, on peut même avoir de la colère, soit une grande détresse, soit de la colère. Pourquoi elle est partie là maintenant? C'est pas juste. Ou alors une détresse, quoi. Elle m'abandonne, qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout seul, je vais pas pouvoir y arriver sans elle. Et oui, c'est souvent des sentiments qui sont témoignés et qui généralement ne durent pas. Ils font partie vraiment du mouvement, du processus du deuil. Quand ils s'installent, c'est que ça vient dire aussi quelque chose, ou en tout cas quand ils insistent, quand ce sentiment insiste, perdure, peut-être que ça vient dire quelque chose aussi. De mon rapport aux séparations, peut-être qu'effectivement, avant tout ça, il y a une partie de moi qui un jour s'est sentie abandonnée quelque part
Qui est réactivé,
et
quoi.
qui est réactivée,
Ouais.
qui se ravive et qui là existe un peu fort à cet endroit, alors que bien évidemment le mort ne nous abandonne pas. On peut se sentir abandonné, c'est juste. Normalement, ça passe.
Il y a la question, tout a changé pour d'autres que moi, évidemment. Je pense à ses enfants en particulier, ses frères et sœurs. À cette occasion, évidemment, les changements se sont aussi produits chez ces personnes-là. Et c'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'ils en sont les uns et les autres, et comment finalement je peux reprendre contact aborder ce sujet à nouveau. Enfin, on l'a déjà évoqué, mais faire comme si de rien n'était, pour moi, c'est pas possible. Et en même temps, mettre les pieds dans le plat, c'est pas toujours évident. Voilà, comment est-ce qu'on prend contact et pour voir si effectivement peut-être ces contacts-là ont besoin de notre aide et voir.
Oui, on va tous cheminer différemment. Donc, comme tu dis, c'est pas évident de savoir où les gens sont et les pieds dans le plat. C'est bien dans le sens où il faut pouvoir aussi faire confiance aussi à l'endroit des autres, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, si il ne souhaite pas me répondre, il ne me répondra pas. Il a le droit, en fait. Voilà, il faut penser les autres, les êtres libres, en fait, hein, libres de me répondre ou pas sur cette question.
Même si
Et
moi je voudrais qu'il me réponde, ouais.
oui,
J'ai
voilà,
pas le droit de leur
exactement.
répondre.
Bien sûr, on peut être déçu, hein, et l'autre ne peut des fois ne pas répondre à nos attentes, bien évidemment, mais voilà, les gens sont libres. Et ce qui est important, mais comme on l'a dit plusieurs fois, c'est de des fois de partir de soi, c'est un peu aidant. C'est-à-dire de dire, mais voilà, moi je pense, tiens, mais j'y pense souvent, ou là j'y ai pensé pour ça, ou oh là là, l'autre jour j'étais triste en pensant à ça, ou tiens, j'ai ri en repensant à ça. Et toi, et voilà, en fait, d'ouvrir une porte. Et l'autre, comme ça, la liberté de la saisir ou non, de s'y dérober ou pas. Hein, mais voilà.
Alors l'autre jour, j'étais avec ses enfants justement et on avait la chance de discuter ensemble. Donc là, on se situe hein, plus d'un an après le décès de leur mère. Et on parlait des moments qui sont très sensibles, qui surviennent comme ça, voilà, une silhouette qui passe, une voix qui nous rappelle, voilà, et on avait chacun nos aspects comme ça très 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 sensibles à fleur de peau, et donc son fils a appelé ça sa kryptonite, tu sais, Superman, ce super héros. Qui a des super pouvoirs, s'effondre complètement et met à genoux à terre quand il est face à cette kryptonite, cette pierre verte là qui est devant lui. Et donc on s'est dit qu'on avait tous notre kryptonite, chacun et chacune. J'ai bien aimé cette idée-là. Alors voilà, peut-être pour conclure cet épisode, tout change et rien ne change. Tout a changé puisque on ne reviendra plus jamais en arrière. La situation est définitive. En tout cas, l'événement, lui, il a eu lieu. Par contre, ce qui se produit après, à partir de là, est quelque chose de nouveau. On a détaillé un petit peu tout ce qui pouvait aussi nous avoir enrichi malgré tout de cet événement. Est-ce que tu as quelque chose sur ce sujet à rajouter, Charlotte?
Non,
Non?
j'ai.
Bon, ok. Bah écoute, merci beaucoup.
Mais oui, merci
Hein?
à toi. Ouais.
Allez, à bientôt, au
Au
revoir.
revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous voulez soutenir mon initiative, vous trouverez un lien dans la description ou bien sur la plateforme Ulule. Dans tous les cas, merci. Je veux vous encourager. La vie est là, profitez-en. Vous pouvez traverser. Et surtout, cultivez l'amour, c'est le plus important. À
Mon
bientôt!
âme au sommet des villes, plus de parfums que d'épines, puis tout qui est à sa place, qui est à sa place.